Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de MacGénération. L'iPhone n'a pas fini d'être la vache à lait d'Apple. Pour créer une nouvelle dynamique, Tim Cook pourrait en effet multiplier les modèles et même organiser deux grands lancements par an. Ne va-t-on pas friser l'overdose d'iPhone ? On va en discuter avec Christophe. Également au sommaire de cette émission, Safari va s'ouvrir aux moteurs de recherche dopés à l'intelligence artificielle, PayPal va concurrencer Apple Pay en Allemagne et Apple préparerait de nouvelles puces très spéciales. Nous sommes le samedi 10 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Abemus Yamal. Après Messi, LeBron James et bien d'autres, Beats a un nouvel ambassadeur de renom en la personne de Lamine Yamal. Salut Christophe, tu vas bien ?
Très bien, et toi ? Bonjour à tous.
Ça va, ouais. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur le recrutement de ce nouvel ambassadeur par la filiale d'Apple ?
Tu m'as fait peur au début, j'ai cru que tu allais me demander ce que je pensais du nouveau pape, et là j'étais bien dans le... Tu devrais préciser qui est ce Lamine Yamal, je ne suis pas sûr qu'il soit encore très connu du grand public.
Ah, peut-être que, effectivement, je crois que Nicolas ne le connaît pas.
C'est
Lamine
étonnant.
Yamal, c'est un footballeur, un jeune footballeur qui joue au Barça, qui a perdu cette semaine, mais bon, quand même très talentueux, et donc un nouveau visage pour Beats, quoi.
Je pense qu'avec ce nouveau contrat, enfin voilà, il a de quoi se... De se réconcilier avec la vie.
Oui, ça va aller. Il a encore une belle carrière devant lui. Bon, on va parler un peu d'Apple maintenant. L'info principale de la semaine, c'est la stratégie commerciale plus agressive autour de l'iPhone qu'Apple mettrait en place dans les années à venir. Alors, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais des rumeurs qui proviennent de sources généralement bien renseignées, puisque c'est le site The Information et l'analyste Ming-Chu Kuo. Alors, d'une part, Apple multiplierait les modèles d'iPhone. En entrée de gamme, jusque-là, l'iPhone SE était renouvelé de manière irrégulière, c'était au bout de 3 ans en moyenne. Dorénavant, il y aurait un iPhone E, donc 16E, 17E, 18E, etc., chaque année. En plus, outre les 4 iPhones habituels annoncés en septembre, Apple pourrait lancer un tout nouveau modèle, le fameux iPhone à écran pliant. Et d'autre part, et c'est sûrement lié à la multiplication des modèles, Apple ne ferait plus un seul grand lancement par an, mais deux. Donc l'année prochaine, on pourrait avoir droit à un lancement des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, 18 Air et 18 Fold à l'automne. Et au printemps suivant, en mars ou avril 2027, donc, arriverait l'iPhone 18 standard et l'iPhone 18 E. Est-ce que ça ne va pas faire une overdose d'iPhone tout ça ?
Moi, j'ai une dernière question. On est d'accord que le destin de l'iPhone Plus est scellé ?
Oui, bah a priori, il serait vraiment remplacé par le 17R.
D'accord, ok. Bon, alors, moi, les informations de The Information, elles m'ont beaucoup réjoui. Je trouve que c'était l'une des rumeurs les plus enthousiasmantes que j'ai pu lire depuis très longtemps, parce que je trouve justement que les plans d'Apple sont très intéressants. Et on a l'impression qu'elle a décidé de réenclencher véritable nouvelle dynamique autour de l'iPhone. Donc, comme tu dis, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, et je vais récapituler encore une fois, c'est que la gamme d'iPhone, d'ici, on va dire, bon, si l'on croit les rumeurs, 12, 18 ou 24 mois, elle va énormément s'étoffer. Mmh. Donc, comme tu disais, on aura une gamme standard... On aura la gamme SE ou E, maintenant, comme il faut l'appeler. On aura la gamme Pro, qui est composée du Pro et du Pro Max. On aura la gamme R, qui, si ça se trouve, à terme, on peut imaginer que Apple sorte plusieurs iPhone R, un peu petit, l'un petit, l'autre un peu plus grand. Et c'est la même chose, la gamme pliable, on voit ce que fait la concurrence, il y a matière à faire plusieurs modèles. Alors, pour reprendre tes mots, une présentation de tous ces iPhones lors du même keynote, là, oui, ça aurait été l'overdose. Mmh. Je trouve déjà qu'on n'en est pas loin avec les gammes actuelles. Les keynotes de septembre, ils sont interminables. Apple cherche à tout montrer. Elle ne fait pas de choix. Enfin, voilà, ce qui était un peu ridicule, c'était de faire 3 ou 5 minutes sur l'Apple Watch Ultra 2, alors qu'elle n'avait rien à dire dessus, si ce n'est qu'elle avait une nouvelle finition. Elle aurait très bien pu s'en passer. Donc là, comme on le disait, l'idée, c'est d'avoir deux temps forts dans l'année. Sortir les modèles haut de gamme à la rentrée, histoire de cibler les utilisateurs avancés et de faire le plein pour les fêtes de fin d'année. Et cela aussi, l'avantage de donner, pendant quelques mois au moins, un vrai avantage à la gamme Pro par rapport à la gamme standard.
Oui, c'est ça, parce que là, on serait obligé d'attendre le printemps enfin obligé entre guillemets, hein, pour avoir, pour pouvoir acheter le 18 standard, quoi.
Tout à fait. Mais comme nous, en tout cas, on le constate, on va dire, depuis notre petite fenêtre de 10 générations, les premiers mois, enfin en tout cas, ce sont nos lecteurs, ils achètent massivement des modèles Max, des ouais. modèles Pro Max ou des modèles Pro et une infime quantité de modèles standards. Et donc, voilà, donc au printemps, comme Apple l'a fait quelque part cette année, elle proposera des modèles pour Monsieur Tout-le-Monde. Et elle pourra tenir le discours en marketing, regardez telle ou telle innovation, on la retrouve maintenant dans un modèle marketing, dans un modèle abordable, pardon. Ouais, voilà, la main sur le cœur, on imagine.
regardez. On est sympa, au lieu de coûter 2000 euros, il coûte 1000 euros.
Voilà. Pour Apple, cette démarche, elle a énormément, enfin, elle a un grand nombre d'avantages. Tout d'abord, elle peut mieux utiliser son outil productif et éviter que celui-ci connaisse des hauts et des bas. Moins de recrutement massif entre septembre et décembre, pendant les périodes de pointe qui coûtent extrêmement cher à Apple. Mieux gérer la demande lors de la sortie des nouveaux produits. On l'a vu il y a quelques années avec le Covid, il suffit d'un grain de sable, ou plutôt d'un virus, pour faire trembler les chaînes de production et rater des millions de ventes. Enfin, avec moins de lancements simultanés, Apple peut sans doute aussi plus facilement débuter la production de nouveaux modèles sur différents sites, et donc dans plusieurs pays. À l'heure de la guerre commerciale, ce n'est pas rien. Je trouve ça mieux que les précédentes stratégies d'Apple qui consistaient à lancer un modèle d'une nouvelle couleur au printemps, par exemple. On comprenait jamais trop pourquoi Apple se décidait en avril. Tiens, on vous a sorti un iPhone Red ou ah bah là, oui, on a fait un iPhone Vert. Oui, on avait envie. Ça avait assez peu de sens. Et enfin, mon intuition, c'est que dans les années qui viennent, enfin, l'idée d'Apple, c'est quand même de considérablement étoffer sa gamme de références d'iPhone et forcément faire tout ça en une seule fois, je pense que c'est beaucoup trop compliqué.
Et puis c'est une stratégie, ces lancements de temps, qui est déjà mise en place par Samsung notamment depuis des années. Donc il y a en début d'année, c'est les Galaxy S24, S25, donc ils sont toujours au nombre de 3 ou 4. Et puis, l'été, c'est maintenant, depuis plusieurs années, les modèles pliants, donc les Fold et Flip. Donc si Samsung utilise cette approche depuis des années, c'est que ça marche sans doute. Ouais.
Oui, je pense qu'Apple a totalement le savoir-faire pour faire tout cela. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'avant, il y avait une certaine corrélation entre le lancement d'un nouvel iPhone et la nouvelle version d'iOS.
Ouais.
Alors maintenant, est-ce que cela a vraiment encore un sens lorsque voilà toutes les mises à jour entre guillemets mineures d'iOS apportent des nouveautés? Donc je pense qu'elle peut vraiment se permettre d'avoir une deuxième vague de lancement qui ne soit pas liée à une grosse mise à jour d'iOS entre guillemets.
Surtout si ceux qui arrivent en deuxième vague, c'est les iPhones les moins chers. Voilà, les iPhone Pro auront la priorité sur les éventuelles nouveautés au début, quoi.
Exactement. Et puis voilà, par exemple, Apple a beaucoup marketé les iPhone 16e avec la prise en charge d'Apple Intelligence. Bon, il fallait bien sortir un argument commercial, mais je suis pas certain que des gens se soient rués sur ce modèle à cause de cela.
On va passer à un autre sujet. Une fois n'est pas coutume, EDQ a dévoilé en avance une nouveauté à venir dans Safari. La liste des moteurs de recherche intégrés au navigateur va s'allonger, avec des services de plus en plus en vogue. Alors, on ne sait pas quand ça va arriver exactement, mais on va pouvoir choisir ChatGPT Search, Perplexity ou un autre moteur de recherche dopé à l'IA. Alors, c'est bien qu'Apple offre plus de choix, mais ça n'aurait pas été l'occasion rêvée pour qu'elle fasse son propre moteur de recherche?
Alors, si Tim Cook veut faire une petite folie, Apple pourrait pas racheter Perplexity plutôt? Non, parce que alors, vous l'avez pas en France d'ailleurs, mais il y a aussi des petits extraits générés par l'IA en tête de page sur Google lorsqu'on fait une requête qui sont assez intéressants.
C'est pas encore disponible en France, effectivement. Ouais.
Mais pour en revenir, l'expérience proposée par Perplexity, elle est très intéressante. On trouve parfois, j'en vais même dire souvent, des informations ou des renseignements beaucoup plus rapidement que sur Google. Bon, encore faut-il que ce soit exact. Mais c'est également aussi vrai sur Google qui peut aussi par moment renvoyer sur des pages au contenu, on va dire, douteux. Alors, les moteurs, on va dire, d'IA, c'est aussi la grosse crainte des éditeurs qui redoutent une baisse de leur trafic web. Et ça, on va pas se mentir, c'est une possibilité. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est sans doute l'avenir. C'est que les déclarations des DQ, elles ont fait réagir. Voilà, parce qu'il a également déclaré que les recherches dans Safari sollicitant Google avaient piqué du nez pour la première fois le mois dernier. Résultat, l'action d'Alphabet a reculé de 7% en bourse. Et Alphabet a, dans la foulée, été obligé de démentir cette information. Alors, je ne sais pas qui dit vrai. Mais voilà, quand on commence à utiliser des outils d'intelligence artificielle, on délaisse de plus en plus souvent Google. Google qui avait déjà, enfin, ça c'était un autre phénomène qui avait déjà été constaté, qui a malgré tout de plus en plus de concurrence. Lorsque les gens cherchent à acheter un produit, beaucoup ne vont plus chez Google, mais sur Amazon. Et les plus jeunes ont, alors ça par contre ça me fascine toujours un petit peu, ont tendance par exemple à utiliser TikTok comme moteur de recherche lorsqu'ils sont à la recherche d'un truc.
En parlant de choix, PayPal va venir concurrencer Apple Pay en Allemagne. Dans quelques semaines, les consommateurs allemands pourront ouvrir l'application PayPal, puis approcher leur iPhone du terminal de paiement pour régler leurs achats en boutique. Ce nouveau service va être rendu possible par l'ouverture forcée de la NFC de l'iPhone en Europe. D'ailleurs, un autre service de paiement qui s'appelle Vipps a déjà saisi la balle au bon en Norvège. Lancé fin 2024, sa fonction de paiement sur iPhone compte maintenant 1 million d'utilisateurs, ce qui est quand même pas rien. Christophe, toi, vu que tu habites en Allemagne, est-ce que tu vas t'empresser de tester PayPal pour les paiements mobiles ?
Oh là là, purée, j'aime pas papa, j'aime pas PayPal. Mais là, c'est l'éditeur qui parle parce que c'est quand même une usine à gaz sans nom. Bon, c'est vrai que sur mobile, c'est un peu mieux. Mais PayPal, c'est un peu comme Skype qui a fermé ses portes il y a quelques jours. Ils avaient tout pour totalement piller le marché dans les années 2000 et 2010 et sont complètement passés à côté du truc. Mais voilà, je le disais, tous les deux, ce sont de grosses usines à gaz. Mais alors, tu as tout à fait raison, PayPal est effectivement plutôt apprécié en Allemagne. Il est très utilisé notamment pour faire des cagnottes ou pour des transactions entre particuliers. Mais promis, j'essaierai. Mais alors, j'ai une question parce que j'ai vu la démo de Vipps. Mm-hmm. Est-ce qu'on aura un accès rapide à ces cartes ? Est-ce qu'on pourra double-cliquer sur le bouton comme on le fait avec Apple Pay depuis un iPhone ou comment ça va se passer ?
Alors oui, tu pourras choisir en fait l'application de paiement par défaut ton iPhone. C'est possible depuis iOS 18. Je ne sais plus quelle version, 0.2 ou 0.3, quelque chose comme ça. Non, même avant, en fait, même depuis en fait, l'ouverture de la NFC. Donc, tu peux choisir ton application de paiement par défaut. Donc, par exemple, si c'est Vipps, ben, tu vas dans le réglage, tu dis que tu veux ouvrir Vipps en double-cliquant sur ton bouton d'iPhone. Donc, ça, voilà, c'est pratique. Le petit problème, par contre, c'est si tu as plusieurs cartes, plusieurs applications de paiement, bah là, tout ne sera plus forcément dans l'application carte d'Apple, mais ça sera un peu dispatché à travers plusieurs applications. Donc, ça ne sera pas forcément aussi pratique qu'aujourd'hui.
Oui, donc là, il va falloir jongler parce qu'évidemment, enfin, je ne sais pas si justement, il y aura peut-être des utilisateurs de PayPal, mais ils ne vont pas forcément avoir envie de se retrouver enfermés par, on va dire, par cet écosystème. Oui, ça promet de rajouter effectivement une petite dose de complexité. Et la question que je me pose, c'est, alors on l'a vu déjà, bah notamment avec les banques en Allemagne, et pas qu'en Allemagne, mais pas uniquement, qui cherchent à imposer, enfin à mettre au point des concurrents d'Apple Pay. C'est comment ça va se passer bon, prenons par exemple une banque française. Imaginons que la BNP adopte un autre standard. Mmh. Est-ce qu'elle va proposer un autre standard et Apple Pay ou elle va miser uniquement sur son standard ? Ça me fait un petit peu. Enfin, je suis impatient de voir ce que ça va être. Ouais.
C'est la question qui reste en suspens. On sait que des banques françaises ont des projets de quitter Apple Pay. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner exactement. En tout cas, il y a des travaux, des réflexions chez des banques pour quitter Apple Pay, parce qu'on peut le rappeler, en fait, Apple Pay, ce que les banques n'aiment pas, c'est que Apple prend une commission sur chaque transaction. Donc, c'est un manque à gagner que les banques n'aiment pas, et donc elles envisagent de quitter Apple Pay pour ça. On va terminer le tour de l'actualité avec des révélations sur les futurs systèmes sur puce d'Apple. D'après Mark Gurman, Apple prévoit de lancer des iPad Pro et des MacBook Pro avec des puces M5 d'ici la fin de l'année. Après quoi, elle plancherait sur des puces M6 et M7, pas de surprise jusque-là, mais Apple serait aussi en train de préparer des nouvelles puces très spéciales. Alors, il y en aurait une dédiée à des lunettes connectées. Cette puce serait basée sur celle de l'Apple Watch, car comme on peut l'imaginer facilement, il faudrait qu'elle soit la plus petite possible. Et à l'autre extrémité, Johnny Srouji serait également en train de faire travailler ses équipes sur de grosses puces pour les serveurs. Et celle-ci servirait tout particulièrement à faire tourner les services d'IA d'Apple. Quel est le projet le plus intéressant là-dedans?
Alors, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais au fin des fins, je pense qu'il y a deux divisions chez Apple qui sont plus importantes que les autres. Celle qui développe les systèmes d'exploitation et celle en charge des SoC, donc des systèmes sur puce.
C'est pas Apple TV+.
Hein? Oh.
C'est pas Apple TV+, la division plus importante, non?
Non. Je n'ose imaginer les conséquences que cela pourrait avoir sur Apple si les têtes pensantes de cette division se faisaient débaucher massivement ou si Apple se ratait sur une génération de puces. Et finalement, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'avec le même cœur logiciel, Apple a un OS capable aussi bien de faire tourner une montre qu'un Mac Pro, qu'une Apple TV, enfin que tout, quoi. Et c'est la même chose avec des processeurs. Se dire qu'Apple parvient à partir du même corps de base à faire tourner aussi bien une Apple Watch qu'un Mac Pro, alors c'est vraiment le cœur de la stratégie d'Apple et c'est quand même assez impressionnant. Et puis ben voilà, de manière générale, le succès de la division semi-conducteur d'Apple est assez insolent. Enfin, les puces H2 des AirPods rendent ces appareils beaucoup plus simples d'emploi. La puce qui assiste le M2 sur le Vision Pro, elle est tout simplement bluffante. Et c'est une chose sur laquelle il faudra revenir, le C1 qui équipe l'iPhone 16e, ah mais absolument personne n'en parle. Alors, c'est tout à fait positif, ça veut dire qu'elle marche très bien, il n'y a aucune plainte des utilisateurs. La seule société finalement qui se retrouve à en parler, bah, c'est Qualcomm, le fournisseur d'Apple pour les autres modèles, voilà, qui doit se faire un petit peu de soucis. Alors, critiquer c'est bien, mais il faut aussi reconnaître quand Apple fait bien les choses, et là elle les fait quand même vraiment bien. Alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est la puce sur les lunettes qui m'intéresse ou me fascine le plus. Tout simplement parce que c'est toujours plus petit et qu'on va demander de faire des choses très complexes à cette puce lorsqu'elle sera installée au cœur d'une paire de lunettes. Et je crois qu'avec son savoir-faire, Apple aura un vrai avantage sur la concurrence. Et voilà, je pense que Meta, même si Meta est un petit peu en avance à l'heure actuelle, ben voilà, ils vont avoir des soucis à se faire à ce niveau-là. De l'autre bout de la chaîne, je n'ai aucun doute sur la capacité d'Apple de faire des monstres de puissance, que ce soit pour les Mac Pro, pour les serveurs, pour des besoins d'intelligence artificielle. Là, c'est surtout une question de volonté et de choix technologique. Enfin, puis voilà, je pense que c'est aussi important d'insister sur ce point, et toi, tu as pu le constater lors des tests. Depuis le passage à l'architecture Apple Silicon, ce n'était pas un feu de paille. Hein. Il y a quand même, en termes de performance, un fossé entre une puce M1 et une puce M4, et pourtant, les M1 actuels continuent de faire tourner de manière plus que correcte. Elles font macOS.
Et tu parlais de la puce C1, et d'ici la fin de l'année, il y aura peut-être aussi une... Donc la puce C1, c'est la puce, le modem cellulaire. Et d'ici la fin de l'année, il y aura peut-être aussi une puce Wi-Fi. Et donc là, c'est Broadcom qui pourrait être concurrencé par Apple.
Tout à fait. Et les puces cellulaires, c'est compliqué. Dans le même genre, les puces Wi-Fi, c'est pas mal non plus.
Ouais. Et on espère, on croise les doigts, qu'avec une puce Wi-Fi, Apple ressuscite enfin les bornes AirPort. Ça serait super, ça serait l'occasion, non?
Ouais, en interne, on faisait une petite revue dans le magazine des... ce sera un article dans le magazine des accessoires ou des produits Apple qui nous ont sans doute, qui nous ont le plus plu ces 25 dernières années. Et on se disait, alors les toutes premières bornes AirPort, hein, et la borne AirPort Express, quand c'est sorti, c'était quand même quelque chose. Et voilà, enfin, pour tester quand même pas mal de modems, en termes d'expérience utilisateur, de simplicité d'administration, eh ben, en 2025, malheureusement, on n'a toujours pas fait mieux.
Puis d'ailleurs, on a fait un sondage cette semaine sur Ma Génération, sur quel produit Apple devrait ressusciter, et puis sans surprise, hein, c'est la bonne AirPort qui a gagné le sondage au la main, avec plus de la moitié des votes de mémoire.
Hein, personne ne voulait des laser writers ou c'était bien. Non, des images writers, ça serait bien là.
Et bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et puis bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous appréciez Sortie de Veille. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.